en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame le député, monsieur le secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier de l'Institut de France, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Après une année passée à étudier les réformes et transformations qui permettront à notre pays de tenir son rang dans le monde du XXIe siècle, l'Académie des sciences morales et politiques n'en mesure pas moins tout le prix des traditions par lesquelles notre présent est relié au passé dans ce qu'il a de plus vivant. Celle qui ouvre notre séance solennelle de rentrée nous rappelle que nous sommes avant tout, dans la vie académique, des héritiers. Aussi, est-ce avec gratitude que j'évoque la mémoire des membres de notre compagnie qui ont quitté cette terre dans l'année écoulée, notre confrère, le professeur Lucien Israël, notre consoeur Claude Dulon-Saint-Denis et les membres correspondants Pierre Huette et Evelyne Soulereau. Et puisqu'il est dans la nature de notre académie de toujours réparer les brèches que lui inflige le temps, je salue d'un même mouvement l'arrivée dans nos rangs de nouveaux talents, Daniel Andler, élu au fauteuil de Bernard d'Espagna, et Pierre-André Chiappori, au fauteuil de Pierre Baucher, ainsi que Thomas Nagel et Yves Schwartz, élus correspondants de notre section de philosophie. L'usage veut que le président fasse également un bilan des activités de l'Académie. Le nombre et la diversité de celles-ci, manifestations scientifiques, groupes de travail et publications confondues, sont telles qu'ils m'interdisent de les présenter en détail. J'en citerai trois qui s'inscrivent dans un cadre pluriannuel. La recherche collective sur la vie de l'esprit dans l'Europe du Centre-Est depuis 1945, financée par la Fondation Del Duca et coordonnée par notre consoeur Chantal Delsol. L'achèvement du cycle de conférences pour une éthique du libéralisme, proposé par la Fondation Éthique et Économie et animé, entre autres, par notre confrère Bertrand Collomb. Enfin, à l'initiative de notre section Économie politique, statistique et finances, les deux colloques et le rapport sur l'enseignement de l'économie au lycée, doublé par un avis de l'Académie, en date du 20 mars. Nous y formulons des propositions concrètes pour que les élèves français bénéficient d'une formation rigoureuse en sciences économiques qui leur permette d'en maîtriser les concepts et les mécanismes de base. Cette démarche est conforme à la mission dévolue à l'Académie depuis ses débuts d'exercer une fonction de conseil auprès des pouvoirs publics. C'est aussi la raison d'être des travaux que j'ai eu l'honneur de présider et dont il me revient de vous proposer à présent une synthèse. Le thème des réformes et des transformations que j'ai souhaité soumettre en cette année 2017 à la réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques se situe au confluent de ses préoccupations traditionnelles et des besoins les plus pressants de l'heure. L'idée même de réforme préside aux origines de notre compagnie. Imprégnés de l'esprit des Lumières, les fondateurs de l'Institut se considéraient comme les continuateurs de l'entreprise de régénération, comme on disait alors, entamée en 1789. Les premières années de la monarchie de Juillet, qui virent la naissance de notre Académie dans sa forme définitive, furent, elles aussi, une période d'effervescence réformatrice. C'est du reste pour canaliser et orienter cet élan quelque peu désordonné que Guizot voulut disposer d'une institution consacrée aux sciences morales et politiques. Un coup d'œil jeté à nos travaux prouverait que nous n'avons jamais cessé, depuis lors, de susciter, promouvoir et accompagner les mesures que nous jugions les plus bénéfiques pour notre pays. Certains de leurs promoteurs ont d'ailleurs siégé parmi nous. Autant dire qu'avec le thème de la réforme, notre Académie est en terrain familier. À nulle époque, cependant, il ne fut plus impérieux. Des indices irrécusables attestent que notre pays est engagé dans un processus qui, s'il n'est pas promptement corrigé, nous condamnera à échéance plus ou moins proche au déclassement. Notre chômage structurel, de l'ordre de 9%, presque le double des taux allemands et britanniques, bride notre croissance économique. Il affecte notre cohésion sociale et mine le moral des familles. Notre balance des paiements courants est déficitaire depuis une douzaine d'années. Du fait notamment du niveau de nos dépenses publiques, nos exportations, notre économie et notre territoire sont handicapés par un manque criant de compétitivité. Notre pays connaît certes depuis quelques mois une légère reprise, mais elle est plus faible que chez nos grands partenaires et notre croissance potentielle est très limitée. Surtout, la France est un des rares pays européens à n'avoir pas engagé des réformes de fond pour adapter son système public à la nouvelle donne économique mondiale. La situation sur ce dernier point est en train d'évoluer très favorablement. Encore faut-il que ce processus prenne l'ampleur nécessaire. Cette aversion apparente au changement ne laisse pas en effet d'inquiéter, alors même que se profilent à l'horizon de nouveaux défis, riches de risques, mais aussi d'opportunités. Le bouleversement de la répartition internationale du travail, sous la pression des pays émergents, la révolution digitale qui remet en cause les positions acquises dans quasiment tous les domaines, les incertitudes géopolitiques qui déstabilisent les relations internationales, ou encore les déséquilibres profonds qui résultent de l'augmentation massive des liquidités et des endettements publics et privés sont autant de lames de fond qui se rapprochent, pour reprendre le titre du vigoureux essai de notre confrère Jacques Delarosière, paru cette année. L'objet des travaux qui nous sont occupés n'est pas le dénigrement morose des maux qui accablent notre pays, mais la recherche raisonnée des solutions grâce auxquelles, en se libérant des schémas obsolètes dans lesquels il s'est enfermé, il recouvrera une place conforme à son histoire, à ses atouts et à son génie. Les 29 communications qui composent notre programme, sans rien céder sur la lucidité de leur analyse critique, nous montre que des avancées sont possibles dans tous les domaines. C'est sur ce chemin que je vous propose de nous engager à leur suite en empruntant les pistes qu'ils ont ouvertes devant nous. Le point de départ de cette entreprise de redressement national consiste certainement à sortir de l'illusion selon laquelle la France pourrait indéfiniment s'exonérer des règles de bonne gouvernance économique sur lesquelles les sociétés développées ont assis leur prospérité. Telle est la conviction que nous a partagée, avec sa fougue et son rationalisme habituel, notre confrère Denis Kessler dans son intervention inaugurale. Elle se résume ainsi. Si nous voulons une économie qui profite durablement à tous, la création de richesses doit redevenir une priorité. L'ignorer reviendrait à bâtir sur le sable tous les défis de nos réformes. Principal sujet de préoccupation de nos concitoyens, le chômage est devenu depuis 35 ans un handicap structurel de notre économie, en dépit des moyens financiers et humains considérables déployés contre ce fléau social. L'Allemagne et le Royaume-Uni, comme les États-Unis et le Japon, ont pourtant fait la démonstration que revenir au plein emploi, y compris en contexte de crise, n'avait rien d'une chimère, à condition de s'attaquer aux racines du mal. Les 6 exposés que nous avons entendus sur cette question nous en ont indiqué la voie. Elle suppose, ainsi que la mise en évidence la communication de Pierre Cahuc, d'actionner 3 leviers. Le coût du travail, son cadre juridique et le traitement social du chômage. Le coût unitaire du travail est en France un des plus élevés de l'Union européenne. Notre salaire minimum, appliqué indistinctement à tous les travailleurs depuis l'âge de 18 ans, pénalise l'embauche des moins qualifiés et des plus jeunes, catégories qui sont précisément censées en bénéficier. Il convient de le fixer en fonction de la réalité du marché du travail, en laissant à d'autres atouts, à d'autres outils, notamment budgétaires, primes pour l'emploi ou impôts négatifs, le soin de porter le revenu des ménages les plus modestes au niveau adapté. Un deuxième facteur bien identifié de cherté du travail en France est le poids de la fiscalité. Une baisse sensible des cotisations sociales des employeurs changerait la donne et lèverait de surcroît un verrou à l'attractivité de notre territoire pour la création d'emplois. Notre gouvernement est en train d'y procéder. Reste enfin la question du temps de travail. Le passage aux 35 heures hebdomadaires a mécaniquement provoqué une hausse du salaire horaire. La rémunération à la tâche, en desserrant ce carcan, aurait un effet bénéfique sur l'emploi. La réforme du Code du travail, sur laquelle nous avons bénéficié des lumières de Gilbert VII, et qui est le premier des chantiers engagés par l'actuelle équipe au pouvoir, a attiré l'attention de nos concitoyens sur le problème de la rigidité du cadre juridique du travail, prisonnier de la dualité entre un CDI surprotecteur et un CDD qui représente plus de 80% des créations d'emplois. Dans un contexte économique en permanente évolution, nous avons besoin, plus que jamais, de flexibilité dans l'esprit de ce que défend depuis longtemps notre confrère Jean Tirole. C'est le salarié qui doit être protégé et non l'emploi. L'instauration d'un contrat unique aurait l'avantage, sous ce rapport, de décongestionner le marché du travail à condition de responsabiliser les entreprises par un système de bonus-malus en fonction du coût induit sur l'assurance chômage par leur licenciement. Cette évolution du modèle juridique du travail s'impose d'autant plus qu'émergent de nouvelles formes de travail indépendant qu'a analysé pour nous Bertrand Martineau. Ces activités, qui ne se substituent pas pour l'heure au travail salarié, participent d'un éclatement des formes de travail qui brouillent les catégories classiques et révèlent les aspirations des travailleurs à des modes différents d'organisation et de relations de travail. En particulier, la faculté d'aménager les horaires, la diversification des revenus et des expériences professionnelles, et plus généralement, tout ce qui favorise l'autonomie. Le contrat de travail de l'avenir sera celui qui saura satisfaire ces attentes. Il faudra, dans le même temps, garantir une protection ad hoc aux nouveaux indépendants, économiquement dépendants, comme les travailleurs des plateformes. La généralisation d'un statut intermédiaire entre le salariat et le non-salariat, inspiré de celui des agents d'assurance ou l'institution de tiers de confiance, comme dans les sociétés de portage salarial, offre des solutions crédibles pour cela. Il n'est d'ailleurs pas exclu, les progrès des technologies numériques aidant, que le travail indépendant, notamment l'auto-entrepreneuriat, explose dans les prochaines décennies. Nous tenons là, au minimum, un gisement d'emploi, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés, dont nous serions inconséquents d'entraver le développement. Un autre avantage que je vois au travail indépendant est son adaptabilité à l'inégale productivité des individus qui peuvent moduler en conséquence leurs horaires ou leurs rémunérations. Dans un système très contraint, cet élément de souplesse doit être encouragé. Le traitement social du chômage a quant à lui surtout fait la preuve de son caractère économiquement contre-productif. Les montants et la durée d'indemnisation n'ont pas été conçus en France en vue d'accompagner ceux qui en bénéficient dans un retour rapide à l'emploi. La générosité du système a même pour effet pervers d'alimenter un travail par intermittence reposant sur l'enchaînement des contrats courts. Une remise à plat est inévitable dans le sens d'une meilleure articulation des droits et des devoirs des chômeurs afin que l'assurance chômage devienne un instrument à part entière de la politique de l'emploi. À l'arrière-plan de chacune de ces réformes se pose la question des relations sociales. Le paritarisme est-il encore d'actualité ? Non, a répondu fermement Jean-Marc Daniel, qui a estimé que ce mode de gestion était daté et voué à disparaître tôt ou tard. Son point de vue radical invite à s'interroger sur ce qui devrait être, en 2017, une représentation efficiente des travailleurs. Nonobstant quelques nuances, il ressort de l'avis des spécialistes que nous avons reçus que les négociations collectives doivent être, autant que possible, décentralisées au niveau des entreprises, selon une logique d'inversion de la hiérarchie des normes, étant sauf les principes généraux du droit du travail. Cette organisation serait le gage d'une meilleure prise en compte de la situation propre à chaque entreprise, ainsi que du point de vue de ses salariés. Les ordonnances du 22 septembre dernier réformant le Code du travail ont marqué un grand pas vers la facilitation du dialogue au sein des entreprises de toute taille. Avec d'autres de leurs dispositions, qui vont dans le sens de la flexibilité et de la simplification, elles témoignent d'une volonté d'affronter, enfin, les véritables causes du chômage. Elles méritent, à ce titre, d'être saluées. Un des drames du marché du travail français est la part considérable de jeunes qu'ils laissent sans emploi, un quart environ, ce qui s'explique, entre autres, par les déficiences de notre système éducatif. 20% des élèves français terminent chaque année leur scolarité en situation d'échec lourd, dont 15% sans aucun diplôme. Les classements internationaux, tels PISA, mis en place par l'OCDE, ou TIMSS, attestent d'une détérioration globale du niveau de formation, ce qui ne peut manquer d'avoir des conséquences sur notre productivité. Les communications de Christian Forestier sur la lutte contre l'échec scolaire et de Jean-Michel Blanquer sur la filière professionnelle ont insisté sur le fait que ces problèmes nécessiteraient un traitement dès le plus jeune âge et ne se régleraient pas par des mesures uniformes, mais en laissant aux établissements une plus grande liberté d'expérimentation. L'enjeu spécifique des lycées professionnels est de généraliser l'apprentissage et de s'intégrer au tissu économique local, à l'exemple de ce qui se pratique en Allemagne ou en Suisse, avec de très bons résultats en termes d'insertion professionnelle. Les premières décisions de Jean-Michel Blanquer, devenu entre-temps ministre d'Éducation nationale, laissent présager qu'il saura réussir dans cette entreprise. L'évocation de la question éducative m'amène à envisager, après les moyens de libérer l'emploi, ceux de susciter l'innovation qui sera demain le moteur de notre croissance. La révolution des technologies bouleverse nos modèles économiques, mais elle ouvre aussi des perspectives inédites de progrès. Notre pays, en ce domaine, dispose de réels atouts. 6 communications nous ont exposé comment en user au mieux. La clé de l'innovation, nous la trouverons d'abord dans notre système d'enseignement supérieur et de recherche, pourvu que nous lui donnions les moyens de soutenir la compétition internationale. Ainsi le déclarait, en effet, voici juste 10 ans, depuis cette même tribune, notre regretté secrétaire perpétuel Michel Albert, dans ce monde concurrentiel, c'est le savoir qui fera la différence, disait-il. Le libre-échange du XXIe siècle, c'est la compétition intellectuelle et scientifique. À partir d'enquêtes menées en Europe et aux États-Unis, Philippe Aguillon nous a montré qu'un bon niveau d'innovation dans l'enseignement supérieur reposait toujours sur la combinaison de 3 facteurs : un investissement soutenu, l'autonomie des établissements et l'incitation à une recherche de qualité obtenue par la répartition d'une partie du financement sur des critères scientifiques. Ce sont là des éléments de l'indispensable réforme de nos universités. Par-delà l'excellence de la recherche publique, le soutien à l'innovation passe par la mise en place d'un écosystème favorable à l'éclosion et au développement d'initiatives privées. C'est à ce dessein que travaille depuis 2013 la commission Innovation 2030, à l'origine d'un concours mondial d'innovation qui a sélectionné et soutenu plusieurs dizaines de projets dans les domaines retenus comme les plus stratégiques pour notre pays. Sa présidente, Anne Lauvergeon, nous en a dressé un premier bilan. Le phénomène des start-up, depuis le début des années 2000, nous a révélé l'appétence des Français pour la création d'entreprises. Tirons-en parti plutôt que de leur compliquer la tâche. Nous n'avions pas le loisir, dans un programme très dense, d'examiner en détail les secteurs les plus innovants. Nous avons fait une exception pour les technologies de l'information, dont la révolution permanente a aujourd'hui un effet d'entraînement sur tous les autres. Après avoir démontré leur progrès, Thierry Breton a déployé sous nos yeux émerveillés les perspectives vertigineuses ouvertes par l'application de la physique quantique à l'informatique, qui pourrait doter nos ordinateurs, d'ici une trentaine d'années, de capacités pratiquement illimitées d'analyse, de protection et de stockage des données. Tout le monde s'accorde dès à présent pour reconnaître que la collecte et l'exploitation des données seront à l'avenir une source essentielle de richesse, en lien avec le développement de l'intelligence artificielle et des objets connectés. D'où l'inquiétude, qui est revenue à plusieurs reprises dans nos séances, de voir les grands opérateurs américains, les désormais célèbres GAFA, et leurs équivalents chinois, régner en maître sur ce marché. Il est temps que nous autres Européens nous mobilisions pour leur opposer une alternative. Parmi les innovations du numérique, celle des plateformes nous est apparue comme particulièrement prometteuse. Nous en avons retenu deux applications concrètes. La première a révolutionné le secteur des services à la personne en simplifiant considérablement la mise en relation des particuliers et des prestataires, ce qui a ouvert le marché à de nouveaux acteurs. Chacun peut le voir, peut avoir en tête l'expérience d'Uber. Michel Debonneuil nous a toutefois indiqué comment nous pourrions aller plus loin que cette économie de petit boulot en intégrant les objets connectés à des chaînes de production qui requerront des emplois qualifiés. La seconde, dont nous a entretenu Elisabeth Grosdhomme, est l'essor, depuis une dizaine d'années, d'une économie dite collaborative, dans laquelle des particuliers mettent à disposition, contre rémunération, leurs biens ou leurs compétences. Son poids est encore modeste, mais elle est déjà entrée dans nos habitudes de consommation. Pour ces deux intervenantes, il ne fait pas de doute que l'économie des plateformes soit porteuse de croissance pour notre pays, pourvu qu'elle fasse l'objet d'une régulation équilibrée qui empêche à la fois les distorsions de concurrence et la captation de la valeur créée entre les mains de quelques sociétés. Ce cadre est à inventer. Espérons que les autorités françaises et européennes s'y attellent rapidement. Notre recherche des atouts productifs français aurait été incomplète si nous avions fait l'impasse sur les domaines dans lesquels notre pays occupe traditionnellement des positions fortes, mais qui ont aujourd'hui besoin d'être réanimées. C'est le cas de la production d'énergie. Notre électricité est moins chère et plus propre que celle de la plupart de nos voisins, et elle garantit notre indépendance énergétique à 55%. Cependant, les bases de cette réussite sont fragilisées depuis une vingtaine d'années, faute d'un pilotage à long terme, ainsi que nous l'a expliqué Jean-Paul Bout, hiérarchiser les priorités, bâtir une stratégie européenne, jouer de la complémentarité des modes de production et investir dans les technologies décarbonées, où nous avons laissé le champ libre aux Américains et aux Chinois, nous permettrait de rester dans le jeu, tout en intégrant la contrainte environnementale. Plus critique apparaît l'état de notre agriculture, tel que l'a décrit Lionel Fontanier. Elle n'a cessé depuis 25 ans de perdre des parts de marché à l'exportation, malgré l'importance des aides publiques. Cette situation appelle une remise en cause de notre politique agricole qui revoit l'allocation des soutiens et rend des marges de manœuvre au monde agricole en soutenant par exemple l'organisation de filières compétitives dans le respect des règles sanitaires qui garantissent à l'étranger la qualité et la traçabilité de nos produits. Le cas de l'agriculture, comme celui du chômage, nous rappelle que la dépense publique n'est pas toujours un facteur d'efficacité. Du fait de sa dérive, qu'il a hissé au niveau record de 57% du PIB, elle est devenue un handicap qui pèse lourdement sur la compétitivité de notre économie et de notre territoire et hypothèque le patrimoine des Français. Malgré le niveau exorbitant de nos prélèvements obligatoires, elle alimente depuis 35 ans des déficits qui viennent gonfler notre dette publique. Notre Parlement a voté pendant des années des budgets en déficit de plus de 3% du PIB, en violation des traités signés par notre pays. Quant à la dette publique, elle dépasse désormais 2 200 milliards d'euros et avoisine ainsi 100% du PIB. Une remontée significative des taux d'intérêt, aujourd'hui exceptionnellement bas, pourrait poser des problèmes de soutenabilité. Comment échapper à cette perspective tout en améliorant la gestion de nos comptes publics? C'est ce que nous ont enseigné 5 communications. Nous avions demandé à François Eckhall comment ramener rapidement et durablement nos dépenses publiques en deçà de 50% du PIB. Il a déterminé à cette fin, pour chacun de nos grands postes budgétaires, une valeur cible tenant compte à la fois des besoins du pays, qui justifie par exemple que soient actuellement renforcés nos moyens de sécurité et de défense, et des économies qui peuvent être raisonnablement dégagées en s'inspirant, le cas échéant, de ce qui se pratique chez nos voisins. Il a insisté pour que ces efforts soient opérés de manière globale et dans la durée. Donner un caractère contraignant à la loi de programmation des dépenses publiques y contribuerait, à condition qu'elle s'applique aussi aux collectivités locales et aux régimes sociaux. Un vaste champ de réformes s'ouvre devant nous est la modernisation de notre fonction publique. Elle implique, en premier lieu, une gestion optimisée des ressources humaines. Un bon point de départ serait de veiller au respect par tous les agents de leurs obligations en termes de durée du travail. Par-delà l'indispensable réduction des effectifs, corollaire d'une rationalisation des services, et de la généralisation de l'outil que sont les nouvelles technologies de l'information, il s'agira d'aller vers une plus grande souplesse en facilitant la mobilité des fonctionnaires et en recourant plus volontiers aux engagements contractuels. Cela irait de pair avec une révision du statut de la fonction publique. L'autre volet de la réforme de notre administration porte sur la réforme de ses structures. C'est l'exercice auquel s'est livrée Agnès Verdier-Molinier à propos des collectivités territoriales. Elle a conclu que l'architecture la plus pertinente, tant du point de vue de l'efficacité administrative que du contrôle démocratique, serait de ne laisser subsister que les actuelles intercommunalités et les régions, tout en procédant à une véritable décentralisation, y compris sur le plan fiscal. Le débat est ouvert, mais la réponse ne pourra être indéfiniment différée. La réforme de notre protection sociale n'est pas moins impérative. Si nous voulons préserver les principes de cohésion et de solidarité qui en constituent la base, sans mettre en péril son financement, aujourd'hui fâcheusement assis pour partie sur la dette, j'ai dit plus haut un mot de l'assurance chômage, mais comment ne pas penser à notre système de santé, un des plus chers du monde et en déficit permanent? Du moins, ajoute-t-on généralement, assure-t-il au plus grand nombre l'accès à des soins de qualité? Tel n'est pas l'avis du professeur Guy Valencien, qui estime que nous pourrions faire beaucoup mieux tout en ramenant les comptes à l'équilibre. La révolution médicale qui s'annonce, basée sur la télémédecine, donne l'occasion de redessiner en profondeur le paysage médical pour une prise en charge adaptée à chaque pathologie et de réduire ainsi les frais. Autre sujet de préoccupation, la question des retraites. Elle a été traitée par Philippe Trénard. Celui-ci a établi avec rigueur que notre système par répartition était incapable, en l'état actuel, de faire face au vieillissement de la population et que le seul paramètre sur lequel nous pouvions jouer était l'allongement du temps de cotisation, ce que justifie du reste l'allongement de l'espérance de vie. Il a défendu, en outre, l'instauration d'un système de retraite par points et l'alignement des régimes particuliers sur le régime général pour une plus grande équité. Bien que distincte de la protection sociale, la politique du logement s'inscrit elle aussi dans notre tradition d'un État-providence. Les 40 milliards d'euros d'aide publique qu'elle mobilise chaque année sont-ils pour autant employés à bon escient ? Étienne Wasmer nous dira dans quelques semaines comment nous pourrions assurer un toit à tous les jeunes ménages en faisant un meilleur usage de ces concours. L'urgence de réduire nos dettes est telle que j'avais demandé à plusieurs intervenants de raisonner à pression fiscale constante. Cela n'interdit pas dès maintenant de la répartir différemment afin que les prélèvements obligatoires ne soient pas un frein à la croissance, voire qu'ils la stimulent. Henri de Castres et Michel Didier nous ont décrit le système fiscal français comme un monstre de complexité, obéissant davantage aux besoins financiers du moment ou à des considérations idéologiques qu'à une logique économique pour un rendement très médiocre. Les assiettes retenues passent à côté des vrais flux de richesses et des taux de prélèvements pratiquement confiscatoires découragent l'activité ou poussent à l'exil fiscal. Cette situation a conduit à multiplier les régimes dérogatoires qui renforcent encore le caractère inéquitable et illisible de l'ensemble. Neutralité, modération et stabilité sont les principes que les deux intervenants retiennent pour une réforme de la fiscalité. Pour Henri de Castres, celle-ci doit baisser en priorité la taxation du travail et du capital, qui a les effets les plus dommageables sur l'emploi et sur l'économie, quitte à augmenter la taxe à la valeur ajoutée, dont nous n'utilisons pas assez les avantages. Sur le point particulier de la fiscalité sur le capital, Michel Didier a préconisé de remplacer les trois impôts existants par un prélèvement unique, proportionnel aux revenus de l'épargne, afin qu'il soit de nouveau avantagé de réinvestir celui-ci dans l'économie productive. On a vu depuis que c'était la solution retenue par le gouvernement. L'un et l'autre n'ont pas caché qu'une baisse de la fiscalité serait à désirer sans attendre pour dynamiser notre économie. Il faut au moins qu'à terme, celle-ci soit ramenée au niveau européen, ce qui est une condition élémentaire de compétitivité dans une économie ouverte. Cette compétitivité s'éprouve aussi au niveau du droit. L'activité économique est corsetée en France par tout un ensemble de réglementations en inflation constante. La stabilité du système juridique français, dont les définitions existent en soi, est sans doute un héritage à préserver, ainsi que nous l'a rappelé Marie-Anne Frison-Roche. Une augmentation de notre droit, pour autant, est possible du moment qu'elle suit une méthodologie appropriée que nous a exposée Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Elle repose, entre autres, sur la limitation de la production normative et sur la systématisation des études d'impact, afin que soient mieux prises en compte les contraintes finales sur les agents économiques. Le Royaume-Uni et l'Allemagne nous offrent, là encore, des exemples concluants. Je n'ai considéré jusqu'ici la réforme qu'à l'intérieur des frontières françaises, où il y a, on l'admettra, de quoi faire. Mais nous ne pouvons pas nous abstraire de notre environnement européen et international qui influe très sensiblement sur notre destin. Trois enjeux dans ce domaine ont été examinés. Relancer la construction européenne, garantir la stabilité financière et assurer la sécurité nationale et collective. Il nous faut avant tout inaugurer une nouvelle étape dans la construction européenne. Le processus d'intégration économique des pays membres de la zone euro a certes connu d'importantes avancées depuis la crise des dettes souveraines, mais l'heure est désormais à son accélération au profit d'une gouvernance plus efficace. Ce sera l'objet, au mois de décembre, d'une intervention de l'ancien président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. On suivra particulièrement sur ce point les initiatives que vient de prendre le président de la République pour relancer ce processus par l'intermédiaire du couple franco-allemand. La crise financière de 2007-2008 a conduit à la mise en place d'un encadrement plus strict des activités bancaires. C'était nécessaire. Mais il convient de s'assurer qu'il reste compatible avec le financement de la croissance, notamment en Europe, comme il est indispensable de se pencher sur la condition essentielle de la stabilité financière. Jacques Delarosière nous entretiendra des risques que font courir au niveau mondial le surendettement et la création massive de liquidités. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, nous a expliqué de son côté pourquoi il était primordial, dans ce contexte, de persévérer dans la voie de la régulation indiquée par le comité de Bâle. Un défi non moins pressant est celui de la montée des périls dans un environnement international déstabilisé par la dissémination du territoire et du terrorisme et de la criminalité et le regain de puissance des régimes autoritaires. Les attentats qui nous ont frappés ces dernières années nous ont montré que notre territoire n'était pas à l'abri des menaces. Hakim El-Karoui nous dira dans quelques semaines comment faire régresser l'ennemi intérieur qu'est devenu le fondamentalisme musulman. Mais cela ne suffira pas. C'est toute notre stratégie de défense et de sécurité qui doit être repensée en fonction de nos intérêts et de nos moyens, nous a prévenu Nicolas Bavrez, alors que notre armée montre qu'elle a atteint ses limites opérationnelles. La réponse, a-t-il ajouté, sera à trouver au niveau européen par la prise de conscience de ce que la sécurité a un coût et que la défense de nos démocraties ne peut être déléguée à d'autres puissances. Arrivé au terme de ce propos, je ne suis pas sans éprouver quelques scrupules. Je ne doute pas de la pertinence des analyses et des préconisations qui nous ont été présentées. Mais avoir raison ici n'est pas tout. Seul comptera, aux yeux de la postérité, la mise en œuvre. Quelles que soient les appréciations que l'on porte sur son action, force est de reconnaître que l'exécutif qui a pris ses fonctions au mois de mai dernier est animé d'un vrai projet de transformation et se donne les moyens de l'appliquer. On le créditera également de traiter les problèmes de front, méthode que la plupart de nos intervenants ont indiquée comme la plus appropriée, plutôt que de diviser les efforts. On peut ainsi espérer, dans un délai raisonnable, engranger quelques résultats qui nous feront voir le bien fondé des premiers changements entrepris. Car nous le savons depuis Michel Crozier, on ne change pas la société par décret. Ou pour le dire avec Renan, de nos jours, et cela rend la tâche des réformateurs difficile, ce sont les peuples qui doivent comprendre. En dernier ressort, c'est de l'adhésion des Français que dépendra le succès des réformes engagées. Comment faire comprendre à nos concitoyens les enjeux qui déterminent l'avenir de notre pays? C'est la question que j'ai demandé à notre confrère Jean Tirole de traiter pour l'ultime séance annuelle consacrée aux Français et l'économie. Je suis certain qu'il saura utilement nous éclairer. Aussi est-ce sur une note optimisme et optimiste que je conclus. C'est sous l'égide de Minerve, déesse de la sagesse, et non de Cassandre, la devineresse incomprise, que sont placées nos académies. Si je n'avais pas confiance dans le bon sens de nos compatriotes, dans leur capacité à se mobiliser collectivement et à se dépasser, comme ils l'ont montré au cours de notre histoire, jamais je n'aurais proposé un tel sujet. Je suis sûr de n'être pas déçu. Je passe maintenant la parole au vice-président François Dorcival pour la lecture du palmarès des prix et médailles attribués en 2017 par notre Académie.
Merci, Monsieur le Président. Les prix de l'Académie, c'est notre principale fonction. Ce mot, notre cher Raymond Boudon, l'un de nos plus grands sociologues, l'avait échangé avec son ami historien de la philosophie, Henri Gouillet. Certes, il disait vrai, mais ce mot ne dit pas tout. Et Michel Pébreau, notre président, vient d'en apporter la plus éclatante des démonstrations. Vous savez maintenant, à quoi nous avons consacré nos séances du lundi cette année, et comme vous l'avez compris, ça n'est pas fini. Vous avez pu mesurer la qualité du travail accompli. Il reste vrai que nous distribuons aussi des prix. Ceux-ci viennent illustrer et justifier la solennité de la séance de ce jour pour saluer le mérite de nos lauréats et la gloire de la République. Cette solennité, nous la devons à un personnage qui serait bien oublié s'il n'avait laissé son nom à une rue de Paris qui finit boulevard des Capucines, la rue d'Aunou. On n'a même pas retenu son prénom, Pierre, et il a fallu près d'un siècle pour que ses mérites soient reconnus en 1881. Car ce Pierre d'Aunou, historien, archiviste, fut aussi législateur. Il était en effet secrétaire de la Convention en 1794, puis président de l'Assemblée l'année suivante, quand il signa une loi fondatrice, la loi du 3 Brumaire en 4, le 25 octobre 1795, loi par laquelle fut fondée l'Institut national des sciences et des arts, dont la seconde classe est précisément intitulée « Des sciences morales et politiques ». L'article premier de cette loi nous attribue pour mission, ouvrez les guillemets, de suivre les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République. Nous y voilà. Nos prix signifient que nos confrères académiciens sont toute l'année à la recherche des travaux et ouvrages les plus éminents de notre temps, chacun dans sa spécialité, afin de les mettre en valeur au service du bien commun et de l'information des pouvoirs publics. Mais le palmarès qui va suivre cette distribution de palmes, de trophées et de lauriers n'aurait pas lieu sans le concours et la générosité de ceux qui, particuliers et associations, ont placé en nous leur confiance en créant soit par donation, soit par legs, des fondations abritées au sein de notre Académie. Plusieurs de ces fondateurs sont présents parmi nous. D'autres sont représentés par leurs familles. Les plus anciens nous restent proches par la pensée. Permettez-moi de les saluer, car nous leur devons plus que notre reconnaissance, notre gratitude. Mes confrères académiciens, constitués par section et par jury, lisent et examinent avec le soin particulier que vous imaginez les œuvres et les dossiers qui leur sont présentés, conformément à l'objet, à la mission, au souvenir que chaque fondateur a laissé. Après délibération, l'Académie ratifie ses choix en comité secret. Les voici consacrés sous la coupole de l'Institut. J'ai donc l'honneur, le privilège et l'agréable devoir de procéder maintenant à la lecture de ce palmarès que vous attendez. Permettez-moi de rappeler quelques règles, tant aux lauréats qu'à vous-même, personnalités et amis. Après que j'aurai indiqué aux lauréats à quel moment ils voudront bien se lever, vous pourrez les applaudir. Mais s'il vous plaît, pas avant. Je commence par les grands prix. 6 de ces grands prix ont été décernés cette année. Les 2 prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise distinguent des œuvres ou des actions contribuant à une meilleure connaissance mutuelle de l'Europe et du monde chinois. Ces prix ont été partagés entre 4 lauréats. Véronique Arnault pour l'ensemble de ses travaux ethnologiques, Stéphane Gourcuff pour ses travaux et son action en vue de mieux faire connaître Taïwan, Christian Rizeau, directeur de l'Institut chorégraphique international, Centre chorégraphique national de Montpellier, pour ses créations en collaboration avec des artistes taïwanais, et Jean-Robert Thoman pour l'ensemble de sa filmographie sur Taïwan. Ces prix leur seront remis au printemps prochain lors de la cérémonie organisée en présence du ministre taïwanais de la Culture qui co-préside le jury avec notre secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitt. Le prix Guido et Marucia Zerili Marimo a été fondé grâce à la générosité de la baronne Marucia Zerili Marimo en mémoire de son mari qui fut membre de correspondant de notre académie. Désormais dotés par leur fille, ils récompensent l'œuvre d'un économiste. Sur proposition de la section d'économie politique, statistique et finance, il est attribué à Roger Guenry, professeur honoraire au Collège de France où il était titulaire de la chaire théorie économique et organisation sociale pour l'ensemble de son œuvre. Deux prix porte le nom de l'ancien conseiller d'État Charles Aubert, l'un en droit, l'autre en histoire. Le premier est décerné à Philippe Reynaud pour son livre « L'esprit de la Ve République, l'histoire, le régime, le système » paru chez Perrin. Le second distingue Pierre Mélandry pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la parution de son livre « Le siècle américain, une histoire » également paru chez Perrin. Le prix Louis Cros, fondé par le Comité universitaire d'information pédagogique en mémoire de ce grand pédagogue, récompense les travaux universitaires consacrés à l'éducation et à la formation. Il est partagé en parts égales entre Guilain Leroy pour sa thèse « Figure de l'enfant et pratique des maîtres de l'école maternelle contemporaine » soutenue à l'Université Paris-Descartes en 2016, à Jean Rakovitch pour sa thèse « Makarenko, l'écrivain, le combattant et le pédagogue, fiction et pédagogie » soutenue à l'Université Louis Lumière Lyon II en 2016, et à Chiara Diana pour sa thèse « L'éducation préscolaire en Égypte, 1981-2011, une socio-histoire de la construction sociale de la petite enfance soutenue à l'Université d'Aix-Marseille en 2015. Enfin, le prix Madeleine Lorrain Portemer récompense un ouvrage historique sur la période moderne. Il est décerné cette année à Dominique Julia pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la publication de son livre Le voyage au Saint, les pèlerinages dans l'Occident moderne, 15e-18e siècle, en coédition entre l'École des hautes études en sciences sociales, les éditions du Seuil et Gallimard. Je prie maintenant les lauréats de ces grands prix de bien vouloir se lever et vous invite à les applaudir. Je vous remercie. Je passe aux prix attribués sur proposition des différentes sections de l'Académie. Sur proposition de la section de philosophie, le prix Dagnan Bouvray est attribué à Michel Denis pour son petit traité de l'espace, un parcours pluridisciplinaire paru chez Mardaga en 2016. Et comme il est le seul de sa catégorie, je vais demander donc à Michel Denis de bien vouloir se lever afin que nous l'applaudissions. Michel Denis. sur proposition de la section de morale et sociologie, le prix Grammaticakis Neumann est décerné à François Host pour « À quoi sert le droit ? Usage, fonction, finalité » paru chez Bruylant. Le prix Émile Girardot à Daniel Hervieux-Léger pour « Le temps des moines, clôture et hospitalité » paru aux presses universitaires de France. Daniel Hervieux-Léger n'a malheureusement pas pu se joindre à notre cérémonie. J'invite donc François Host à se lever afin que nous puissions également l'applaudir. Cinq prix ont été décernés sur proposition de la section de législation, droit public et jurisprudence. Diana Villegas reçoit le prix Choukri Kardahi pour sa thèse « L'ordre juridique mafieux, étude à partir du cas de l'organisation criminelle colombienne des années 1980 et 1990 » soutenue en 2016 à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Étienne Henry reçoit le prix Francis Durieux pour son livre « Le principe de nécessité militaire, histoire et actualité d'une norme fondamentale du droit international humanitaire » paru chez Pédone en 2017. Le prix Henri Texier va à Mathieu Touzey Divina pour son dictionnaire de droit public interne, paru chez Nexis en 2017. Le prix René Cassin est attribué à Olivier Jouan-Jean pour son essai « Justifier l'injustifiable, l'ordre du discours juridique nazi » paru aux presses universitaires de France en 2017. À Joël Benoît Donorio est décerné le prix Corbet pour son livre « Monaco, monarchie et démocratie » paru aux presses universitaires d'Aix-Marseille. Nos cinq lauréats juristes peuvent se lever pour que nous les applaudissions. La section d'économie politique, statistique et finances a proposé de décerner trois prix spéciaux dotés par la Fondation SCOR pour la science. Ont été distingués Gilles Lecointre pour son ouvrage « Théorie générale du capital, de la croissance et de l'emploi » paru chez Gualino Lextenso. Yves Mallier pour « Reconnecter la formation à l'emploi » « Le chômage des jeunes n'est pas une fatalité » paru aux Presses des Mines en 2017. Et Michel Talley pour son essai « Les coulisses de la politique fiscale » paru aux Presses universitaires de France. Mais toujours, sur proposition de la section d'économie, le prix Olivier Le Cerf, fondé par notre confrère Bertrand Collomb et l'entreprise Lafarge, récompense chaque année des actions ou des travaux illustrant une conception humaniste du management de l'entreprise. Il est décerné à Jean-Paul Bailly pour son livre « Réformer par le dialogue et la confiance » paru chez Descartes et compagnie, ouvrage qui fera l'objet au cours de l'année prochaine d'un colloque organisé par la Fondation. J'invite les lauréats de ces différents prix d'économie à se lever et l'auditoire à les applaudir. Notre section Histoire et géographie a attribué quatre prix. Le prix Jean Saint-Denis. Et notre président Michel Pébrot a rappelé tout à l'heure la disparition récente de Claude Dulon-Saint-Denis, pour qui nous avons une pensée à l'instant. Le prix Jean Saint-Denis va donc à Pierre-François Souiri, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres, pour son ouvrage « Moderne sans être occidental, aux origines du Japon aujourd'hui », paru chez Gallimard. Michel Kérotré reçoit le prix Georges Mauguin pour « Un crime d'État sous l'Empire », l'affaire Palme, paru chez Vendémiaire. Le prix Maurice Beaumont est attribué à Johann Chapiteau pour « La révolution culturelle nazie », paru chez Gallimard. Enfin, Fanny Cosandé reçoit le prix Torlé pour son ouvrage « Le rang, préséance et hiérarchie dans la France d'Ancien Régime », publié chez Gallimard. Je remercie ces lauréats de bien vouloir se lever pour accueillir vos applaudissements et les nôtres. Sur proposition de la section générale, le prix Louis Marin est décerné à Hervé Guémard pour son livre « La ligne de force » paru aux éditions du Cerf. Notre ami Hervé Guémard voudra bien se lever pour que nous puissions l'applaudir. Deux prix sont attribués sur proposition de jurys spéciaux. Le prix Edmond Fréville-Pierre Messmer distingue des travaux portant sur les questions militaires et stratégiques. Il revient à Jacques Garnier pour son ouvrage « L'art militaire de Napoléon, une biographie stratégique » publié chez Perrin. Le prix Pierre-Georges Castex de littérature française est décerné quant à lui à Nathalie Presse pour l'ensemble de son œuvre. Ces deux lauréats voudront bien se lever pour que nous les applaudissions. Le prix Édouard Bonnefous de l'Académie des sciences morales et politiques, fondé en 1997 par Feu, notre confrère Édouard Bonnefous, chancelier honoraire de l'Institut, récompense alternativement une œuvre ayant contribué à alléger la charge de l'État sur les citoyens ou, c'est le cas cette année, une œuvre consacrée à la défense de l'homme et de son environnement. Sur proposition du bureau de l'Académie, il est décerné à Jean-Paul Hamma pour l'ensemble de son œuvre et notamment pour son livre « Les forêts de la Grande Guerre, histoire, mémoire, patrimoine » paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Trois autres prix ont également été remis sur proposition de notre bureau. Le prix Daniel Strasser, créé par Madame Daniel Strasser, princesse Radziwill, distingue les œuvres et les réalisations visant à approfondir la connaissance des réalités européennes. Il est remis à Hélène Gissereau pour l'ensemble de sa carrière et de son action. Le prix Bernard d'Estrémo, du nom de notre défunt confrère, récompense un athlète de haut niveau qui a su concilier la pratique d'un sport de compétition avec la poursuite de ses études supérieures. Il est décerné à Souleymane Sissoko, médaillé de bronze en boxe aux Jeux Olympiques de Rio et étudiant à la Sorbonne en Master 2 de droit du sport. Le prix Claude Berthaud de l'Institut de France est décerné à Jean-Philippe Dumas pour son essai « L'État, moteur du progrès, le ministère du commerce et de l'industrie, 1870-1914 », publié par le Comité pour l'histoire économique et financière de la France. Avec ses lauréats, prend fin le beau palmarès de nos prix et médailles décernés en 2017. Ces lauréats voudront bien donc se lever à leur tour et vos applaudissements vont conclure l'hommage qui leur est dû. Les distinctions de l'ensemble de ces lauréats vont leur être remises à l'issue de cette séance par notre président, Michel Pébreau, qui précisera lui-même les modalités pratiques de cette cérémonie. Un mot encore. Grâce à la générosité des fondations d'Aigremont, Schlumberger et Carnot, l'Académie a pu accorder cette année des aides particulières et concours à des personnes durement affectées par la vie. Au total, plus de 55 000 euros ont été ainsi distribués. Permettez-moi enfin de renouveler, au nom de tous mes confrères, nos très vives félicitations à chacun de nos lauréats, témoins de leur temps, de notre temps et acteurs de l'excellence française.
Merci, Monsieur le Vice-président. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire perpétuel, Jean-Robert Pitt, pour la lecture de son discours intitulé « Force spirituelle, innovation et accélération de l'histoire ». Jean-Robert.
Merci, Monsieur le Président. Selon notre coutume, le secrétaire perpétuel de notre Académie est laissé libre du choix de ses propos lors de la séance solennelle de rentrée. Mon tour de présider notre Académie aurait dû arriver l'une de ces prochaines années, compte tenu de ma date d'élection. Vous en avez décidé autrement, mes chers confrères. Je ne pourrais donc pas vous infliger une année entière à tenter de vous démontrer combien la géographie est un merveilleux savoir qui, certes, peut servir à faire la guerre, comme Yves Lacoste l'avait écrit en 1976, mais plus sûrement encore à faire la paix en permettant à l'humanité de mieux connaître et aménager sa planète, et de mieux comprendre sa propre diversité pour en tirer le meilleur des partis. En revanche, si Dieu me prête vie, je dispose de 6 occasions d'évoquer devant vous le champ scientifique qui m'est cher, en vous entraînant sur les chemins de traverse de celui-ci, ceux que j'ai empruntés avec délice au cours d'un quasi demi-siècle de recherche et d'enseignement, conduit avec un immense plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'une conviction profonde, le temps et l'espace sont insécables. Tous les rythmes du temps, toutes les échelles de l'espace terrestre se combinent et se recomposent sans cesse avec des lenteurs et des accélérations fulgurantes que l'humanité vit selon les moments de son histoire, soit dans de minuscules territoires, soit en dépassant ses frontières pour s'embarquer vers des horizons lointains et des lendemains qu'elle espère voir chanter. Le croisement de l'histoire et de la géographie appartient à la tradition française depuis les collèges jésuites ou lassaliens des temps modernes. Aujourd'hui encore, c'est le même professeur qui enseigne l'histoire et la géographie dans les collèges et les lycées. Hélas pour la géographie, qui est un peu la parente pauvre de la formation des maîtres. L'intitulé de la section de notre académie à laquelle j'appartiens, « Histoire et géographie », porte la marque de ce choix intellectuel de notre pays depuis 1934, date à laquelle il a remplacé l'intitulé « Histoire générale et philosophique ». Deux géographes seulement y avaient occupé avant cette date un fauteuil, Paul Vidal de la Blache, élu en 1906, et Jean Brune, élu en 1927. Vous me permettrez d'y annexer André Siegfried, élu en 1932 dans la section « Morale », devenue « Morale et sociologie » en 1958. Même si l'université ne l'a hélas jamais considéré comme le grand géographe qu'il a pourtant été. 4 autres suivront, Augustin Bernard, élu en 1938, Raoul Blanchard en 1958, Maurice Lelanou en 1975 et Pierre Georges, mon prédécesseur immédiat, en 1980. Beaucoup de nos contemporains sont volontiers déterministes et croient en la toute-puissance de Dame Nature, censée être bonne, mais qui serait aujourd'hui très en colère. Douée de raison et de volonté, Gaïa serait en train de se venger des violences insupportables dont elle fait l'objet. Ils sont persuadés que le ciel va nous tomber sur la tête si nous n'arrêtons pas de croître et multiplier. Ils pensent que le changement climatique que nous vivons est d'une part intrinsèquement mauvais et d'autre part exclusivement dû à une activité humaine déréglée. Agriculture polluante, élevage intensif entraînant un excès de flatulence bovine qui aggrave l'effet de serre, production d'énergie, industrie, circulation, chauffage, climatisation, etc. Le discours dominant actuel sur la nature qui a cours dans la plupart des pays de la planète ne correspond pas à leur tradition culturelle, mais au succès de principes plus ou moins animistes venus des pays d'Europe du Nord et qui ont lentement cheminé vers l'Amérique du Nord, puis vers le sud de ces deux continents et enfin gagné le monde entier. Ces idées constituent sans nul doute une prise de conscience salutaire du fait que l'humanité doit gérer son environnement avec sagesse, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours de son histoire. Surtout depuis l'accélération imprimée par la révolution industrielle, laquelle, il faut le rappeler, a aussi pris naissance au nord de l'Europe et de l'Amérique. Elle représente néanmoins un ensemble doctrinal, plutôt inquiet, voire pessimiste, qui s'affirme, fondé sur des analyses scientifiques objectives, mais qui relève en réalité, pour une large part, de convictions plutôt que de faits qui s'imposent. Majorité, voire consensus, ne font pas preuve. Nos travaux de l'année prochaine consacrés à l'opinion publique, sous la houlette de François Dorcival, nous permettront de réfléchir à cette importante question. Il faut envisager les changements rapides que nous vivons à l'aune du temps long, lequel nous invite plutôt à l'optimisme et à l'action. Une certaine vision matérialiste de la condition humaine a fait attribuer nombre de grands bouleversements de l'histoire de l'humanité et de la géographie de la planète qu'elle habite à des facteurs environnementaux, en particulier les changements climatiques entraînant des effets démographiques, comme si nécessité faisait toujours loi. En réalité, c'est une explication très partielle, voire partiale, et même fausse. Il convient plutôt d'inverser le processus. C'est la volonté, la liberté et la spiritualité humaine qui sont responsables des grands franchissements de paliers. Même Maurice Godelier, revenu des raideurs de sa jeunesse, a pu écrire en 2007 « Au fondement des sociétés humaines, il y a du sacré, autant le savoir ». C'est aussi ce qu'admet Marcel Gauchet lorsqu'il écrit « Nous sommes obligés de réviser nos convictions, à commencer par l'économisme primaire qui tient lieu d'explication à tout et qui empêche l'Occident de comprendre les autres sociétés du globe ». Les modifications environnementales ont pu, dans certains cas, contraindre l'humanité à réagir. Mais à la différence des espèces végétales et animales, elle ne fait pas que s'y adapter. Elle est capable d'innovation, que son cadre de vie change ou non. D'ailleurs, des événements aussi marquants que la naissance et la mort des grands empires, les grandes découvertes, la révolution industrielle ou les deux guerres mondiales, ne sont en rien liés à des changements environnementaux, mais doivent tout au génie propre à l'espèce humaine ou au réveil de ses pulsions les plus barbares et autodestructrices. Le merveilleux roman « Pourquoi j'ai mangé mon père », chef-d'œuvre de Roy Lewis, publié en 1960, fondé sur les connaissances scientifiques que l'on possédait alors du paléolithique, le démontre d'une manière désopilante. Théodore Monod, qui fut membre de l'Académie des sciences, le considérait comme un chef-d'œuvre. La descente des arbres, les progrès dans l'obtention de subsistance et l'augmentation de la population sont, d'après Roy Lewis, les conséquences d'une révolution de la pensée. Il y attribue l'invention du feu à un pithécanthrope au psychisme très avancé, imaginatif et féru de nouveautés techniques. Grâce à la maîtrise du feu qui n'était nullement une nécessité vitale, un saut majeur dans la maîtrise de l'environnement a été accompli voici 400 000 ans environ. Prolongation nocturne de la lumière du jour et éclairage des cavernes, protection contre les animaux sauvages, cuisson des aliments devenant ainsi plus sains par la destruction des parasites, de la viande, plus digeste et plus goûteux, résistance au froid et conquête de nouveaux espaces de vie, en particulier au moment des glaciations, fabrication de pieux durcis bien plus efficaces pour la chasse, mais aussi pour la guerre. En outre, l'invention du foyer a favorisé le rapprochement des individus, l'échange et la sociabilité. Roy Lewis, en contractant la préhistoire, fait du fils de son héros l'inventeur de l'art pariétal, qui représente un autre pas essentiel dans l'histoire de l'humanité, un moyen prodigieux d'affirmer, grâce à l'art, la maîtrise par l'homme du règne animal, si indispensable à sa subsistance et à sa multiplication. Il attribue aussi à son héros l'invention majeure de l'exogamie. Quelle que soit la date exacte d'apparition de celle-ci, nul doute qu'elle ait permis un immense progrès, non pas seulement en évitant l'inceste et les risques génétiques de la consanguinité, mais comme l'écrit le romancier, je le cite, « Si nous voulons le moindre développement culturel, il faut que l'émotion individuelle ait la tension d'un stress. Bref, il faut qu'un jeune homme quitte le toit familial, se cherche une compagne, la courtise, la capture et se batte pour elle. » L'apparition du culte des morts, il y a environ 100 000 ans, est un autre palier majeur de l'histoire de l'humanité, qui contribue à donner un sens plus aigu à la vie, à doter celle-ci d'une espérance d'éternité. Le rituel cannibale final, imaginé par Roy Lewis, est un hommage appuyé rendu à son héros, permettez-moi de le citer. « Telle fut la fin de père en tant que chair, mes garçons, et c'était, j'en suis sûr, celle qu'il eût désirée. Être oxy par une arme vraiment moderne, un arc, et manger d'une façon vraiment civilisée, rôti. » Franchissons un certain nombre de millénaires, si vous le voulez bien, les travaux de l'archéologue Jacques Cauvin et de son équipe, dont la synthèse s'intitule « Naissance des divinités, naissance de l'agriculture », ont montré que l'une des plus remarquables accélérations de l'histoire humaine, la révolution néolithique au Proche et au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'apparition de l'agriculture et de l'élevage environ 10 000 ans avant notre ère, a été précédée et non suivie par une révolution religieuse majeure. Par rapport aux terreurs des animismes anciens, le développement du culte des déesses-mères et du taureau marque l'éloignement du divin et sa personnification, de même qu'un essor de la liberté humaine moins contrainte par un environnement immédiat divinisé. La stratigraphie est irréfutable et rend intenable la position déterministe qui ferait découler les nouvelles croyances de l'évolution technique. Cet éclair de réflexion des anciennes civilisations du Levant, puis de Mésopotamie sur les origines de la vie, et cette aspiration à la vénérer, ont donné aux sociétés mésolithiques l'idée d'en diriger le processus en apprenant à planter des céréales et à domestiquer des petits ruminants. Il n'est pas niable, pour autant, que dans ce contexte, la remontée des espèces vivantes vers le nord à la fin de la dernière glaciation du Würm a favorisé l'éclosion de ces nouveautés techniques. Mais il ne s'agit que d'un coup de pouce. C'est cette fascination pour la vie qui explique aussi le goût des boissons fermentées. La bière d'abord, le vin ensuite, source de joie et de dépassement de la condition humaine. Puis, pour le pain, œuvre de pulsions vitales qui resteront mystérieuses et sacrées jusqu'à la découverte des levures par Pasteur, qui a réfuté la théorie de la génération spontanée. C'est aussi le désir de vivre ensemble, en groupe constitué, partageant les mêmes valeurs et vénérant les mêmes divinités, qui explique la naissance des villages et les embryons d'un droit foncier et d'institutions politiques. Le même enchaînement s'est déroulé en Chine, en Amérique centrale et dans la cordillère des Andes, autre foyer de la révolution néolithique, mais l'archéologie ne l'a, semble-t-il, pas encore démontré de manière aussi convaincante que dans le croissant fertile. Plus tard, l'urbanisation commence dans la même région avec l'apparition d'un panthéon de dieux anthropomorphiques ou chimériques installés dans des espaces sacrés et l'apparition également d'institutions politiques de droit divin avec des rois prêtres. Il est faux de penser que la ville serait née d'abord des nécessités du commerce, de l'artisanat ou de la défense, même si ces préoccupations ne furent bien entendu pas absentes. L'historien de l'urbanisme Charles Delfante l'exprime de manière très claire. Je le cite, « La notion de composition urbaine semble apparaître lorsqu'une idéologie, quelle qu'elle soit, commande aux destinées du projet. Force est de constater que les pouvoirs politiques, religieux ou militaires donnent naissance à deux principes fondamentaux en matière d'urbanisme, l'ordre et le symbolisme, qui permet de mettre en évidence la grandeur et la vérité du pouvoir en place. Les plus anciennes villes de Mésopotamie furent d'abord des cités-temples, qui sont ensuite devenues des cités-États et enfin des foyers économiques. La ville impériale chinoise, bâtie en prolongement de sa cité interdite, ou la ville précolombienne, sont des modèles analogues, nés simultanément sous d'autres cieux, et sur lesquels repose la construction des cités et des empires dont elles sont les hauts lieux sacrés. Des pyramides s'élèvent partout, en Amérique, en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, pour établir le lien symbolique entre les dieux et les hommes. La politique, le droit, l'urbanisme et l'architecture monumentale sont nés de la foi des anciens. La ville grecque et la ville romaine illustrent à merveille cette conception. Bâtie pour la première autour d'une acropole et d'une agora, pour la seconde à partir d'un forum, d'où partent un Decumanus et un Cardo, qui inscrivent l'urbanisme dans une cosmographie sacrée. Comme l'écrit Fustel de Coulanges dans la Cité antique, toute ville était un sanctuaire, toute ville pouvait être appelée sainte. Et il écrit ailleurs, on bâtissait toutes les villes pour être éternelles, signe que l'on était loin d'une simple nécessité matérielle, mais dans une démarche de haute spiritualité sans laquelle on ne peut comprendre la perfection technique des réalisations qui nous étonnent encore aujourd'hui et leur beauté qui nous touche toujours. La Pax Romana et la diffusion des valeurs gréco-romaines jusqu'en des contrées si éloignées de Rome ne sont dues qu'à la foi intense des Romains en leurs valeurs sacrées, dans lesquelles s'ancrent les institutions politiques, juridiques, économiques et sociales. L'ensemble est encadré par des rites sans lesquels tout l'édifice s'effondre. C'est tout le sens du puissant message de Confucius. C'est tout le sens des rituels que nous observons au sein de notre Académie et de l'Institut de France. Si nous envisagions de les abandonner, nous signerions sans aucun doute notre arrêt de mort, car cela signifierait que nous ne croyons plus en nos missions. L'université post-68 et la jeunesse française le payent encore très cher. Le monothéisme, la croyance en une élection divine qui autorise le dialogue avec le Créateur, l'amour de la connaissance via la lecture et le débat, l'esprit critique développé jusqu'au paroxysme, explique le singulier destin du peuple juif. Sa diaspora est présente sur tous les continents, malgré ou à cause d'incessantes persécutions et déportations, et joue un rôle dans la marche du monde qui est hors de proportion avec ses faibles effectifs de 18 millions de personnes, soit 0,25% de l'humanité. Ce que les Juifs ont fait d'Israël en un peu plus d'un demi-siècle est un sujet d'étonnement pour beaucoup, en particulier les géographes positivistes, mais pas pour ceux qui croient au primat de l'esprit. De leur côté, les valeurs propres au christianisme, parmi lesquelles l'amour de Dieu confondu avec celui du prochain, la dignité de la personne humaine, homme et femme, à égalité, la grandeur de la liberté, l'universalisme et l'esprit de mission ont permis la diffusion de cette religion jusqu'aux extrémités de la terre, avec dans son cortège les techniques et les manières spécifiques de concevoir et aménager le monde. La séparation enfin accomplie aujourd'hui entre la sphère de Dieu et celle de César, élément essentiel du message de son fondateur, lui assure un avenir conforme au projet évangélique, celui pour les chrétiens d'être le sel de la terre, rien de plus, rien de moins, mais sont-ils encore assez ardents pour le rester ? L'impressionnant décollage agricole de l'Europe occidentale à partir de l'an 1000 ne s'explique que par la foi intense de ses habitants, conduits par leurs moines, leurs clergés séculiers, leurs chevaliers et leurs rois très chrétiens. Les défrichements s'intensifient au détriment des forêts et des landes. Les marais sont asséchés. Bientôt, la seulement réglée, triennale au nord, biennale au sud, permettra de produire plus et d'assurer la croissance démographique. La culture la plus civilisée, celle de la vigne, symbole de la romanité et de l'appartenance à la chrétienté, s'étend de nouveau partout. Et partout coule de nouveau le ferment divin. Les campagnes se couvrent d'un blanc manteau de monastères et d'églises, mais aussi d'innombrables mottes féodales et donjons de bois, petit à petit remplacés par des châteaux de pierre, qui marquent l'encadrement des villageois et les protègent. À côté de cet élan, capable de déplacer des montagnes, le réchauffement du climat, les douceurs de l'an 1000, cher à notre confrère Emmanuel Leroy-Ladurie, le retour à la sécurité avec la fin des invasions germaniques après la sédentarisation des Vikings en Normandie, ne sont que des éléments de contexte favorables et non des facteurs de déclenchement. De même, la croissance démographique est une conséquence et non une cause. Il faut avoir l'esprit confiant et pionnier pour engendrer une vaste descendance. Puis vient le temps des cathédrales, dont l'éclosion est avant tout liée à la renaissance de l'idée romaine d'Urbs et d'un réseau de villes qui furent les miroirs de Rome, comme Amma Blaudin le disait de la ville de Lyon. Les villes médiévales sont des espaces tout aussi sacrés que les villes romaines, mais désormais, elles évoquent et préfigurent la Jérusalem céleste, singulièrement les cathédrales, qui se dressent par centaines dans tout l'Occident et qui expriment les mêmes valeurs que les forums romains. Elles ne sont pas d'abord un orgueilleux signe de puissance et de richesse, mais l'affirmation fervente que rien n'est trop beau pour Dieu et que le salut passe le don de son talent, de son temps et de son énergie, que la dépense ne compte pas dès lors qu'il s'agit de représenter le mystère et la beauté du Dieu trinitaire, de la Vierge, des prophètes et des saints. La lumière qui entre à flot dans les édifices à dater du XIIIe siècle est d'abord un choix spirituel et esthétique. Le Christ, lumière du monde, lequel choix va entraîner une incroyable révolution technique, celle de la voûte d'arête, qui permet en outre d'économiser le bois devenu rare et oblige à perfectionner les techniques verrières. Ce n'est qu'ensuite que viennent les facteurs politiques, que sont par exemple l'affirmation de l'ambition capétienne. N'oublions pas qu'avant d'être tourné en dérision avec le vocable gothique, cet art était qualifié de français, c'est-à-dire d'Île-de-France, et donc né au cœur du fief des Capétiens. De même en est-il de la richesse agricole du plat pays, de celle des corporations d'artisans et des marchands, d'autant que la prospérité d'une ville qui possède une cathédrale s'accroît du fait de la présence de celle-ci. C'est le cas de Chartres, qui connaît un afflux considérable de pèlerins venus vénérer le voile de la Vierge dans le sanctuaire et donc, par conséquent, un essor de son commerce. Dès lors, l'histoire connaît des accélérations plus rapprochées et plus fortes encore. Les fondements de la première mondialisation économique, née dans les villes marchandes de l'Italie ou des Flandres du Quattrocento, dans les très catholiques royaumes d'Espagne et du Portugal, dans l'Europe de la Réforme, berceau de la lecture pour tous et du capitalisme, sont donc avant tout culturels. Tout comme plus tard la révolution industrielle et des transports, et celle de l'information et de la communication. Ces bouleversements sont liés à la soif de connaissance, mêlée d'une confiance désormais un peu trop aveugle dans le pouvoir de l'homme. C'est leur force, mais aussi leur faiblesse, car les satisfactions qu'elles procurent légitimement sont assorties de frustration et de rancœur, germes de guerre fratricide. Je voudrais évoquer encore, parmi bien d'autres, deux accélérations de l'histoire fondées sur des valeurs spirituelles et morales. La première est celle du destin singulier des États-Unis d'Amérique. Leurs pères fondateurs furent des croyants persécutés, animés d'une folle énergie spirituelle. À partir d'immensités peu peuplées, ils ont bâti la première puissance du monde, qui, au-delà de toutes les critiques dont elle a fait et fait l'objet, parfois à juste titre, demeure l'un des hauts lieux de la liberté de penser, des libertés politiques et de la liberté d'entreprendre, seul fondement de sa prospérité. J'évoquerai également le Japon, qui m'inspire et me nourrit depuis 4 décennies. La révolution Meiji, commencée en 1868, a permis au peuple de cet archipel situé aux antipodes de l'Occident de basculer à une vitesse fulgurante dans la modernité technique sans pour autant abandonner ses traditions. Cela tient aux 2 siècles et demi de fermeture de l'ère d'Edo, au cours desquels un mode de gouvernement ferme et éclairé a permis au pays d'approfondir sa culture et de développer l'amour du savoir, la lecture et l'écriture pour tous, y compris pour les femmes. Dès lors, le tremblement de terre de 1923 qui détruit intégralement sa capitale, ou la défaite de 1945 qui laisse le pays en ruine et exsangue, sont des occasions pour le peuple japonais de se ressaisir et de rebondir, au point de devenir à la fin du XXe siècle la 2e puissance économique mondiale, avant d'être dépassée par la Chine, qui elle aussi occupe cette place en vertu de raisons essentiellement culturelles. Et pourtant, les handicaps du Japon ne manquent pas. 80% de montagnes escarpées couvertes de forêts, des plaines cultivables et urbanisables minuscules, des tremblements de terre incessants avec leur cortège de tsunamis parfois terrifiants, des typhons, des inondations, des glissements de terrain, de la neige hivernale en excès au nord-est et au nord du pays. Rien de tout cela ne compte, tant ce peuple éduqué et courageux a le désir de vivre et de s'accomplir. Il lui reste à progresser encore dans le désir d'être contagieux et de transmettre ses valeurs. L'abandon progressif de la référence à un créateur explique la volonté de puissance de certaines sociétés humaines et, en leur sein, d'individus à l'ambition démesurée. C'est de l'exacerbation de celle-ci que naîtront, hélas, les grands empires totalitaires du XXe siècle, URSS, Troisième Reich, Chine de Mao, responsables de millions de morts et voués à un échec inéluctable et constaté. Ce ne sont pas les civilisations qui sont mortelles, mais bien les barbaries. La comparaison de ces cataclysmes et de ces contre-civilisations avec les grandes avancées de l'histoire de l'humanité est édifiante. Comme les secondes, les premiers sont liés à des choix idéologiques et culturels. Simplement, ils s'ancrent dans l'arrogante utopie d'un paradis sur terre et non pas dans l'humilité d'une inscription dans l'éternité qui seule permet le dépassement de soi et le vrai progrès. Les grandes institutions de dialogue, Union européenne, Organisation des Nations unies, tribunaux internationaux, etc., y compris économiques, Banque mondiale, Fonds monétaire international, OCDE, entreprises multinationales, etc., bien que lentes à se mettre en place, sont source d'espérance pour la planète et ses habitants. Elles reposent sur les valeurs morales de l'égalité des hommes en dignité, de la liberté et du dialogue, mais aussi de la recherche de la paix et de la plus grande prospérité possible pour le plus grand nombre. Dans tous les domaines, les inventions techniques ont été précédées de bouleversements culturels et artistiques. L'urbanisme renaissant et baroque a été précédé de représentations picturales de villes idéales en perspective. L'urbanisme international en tours et bars a été précédé de la charte d'Athènes en 1933 et de l'art cubiste au tournant du XXe siècle. Le calvinisme est à l'origine de la passion pour la ponctualité et donc de l'art de l'horlogerie suisse. Dans un ordre d'idées plus futile, il est aussi à l'origine des tablettes de chocolat, dont la division en petits carrés symbolise l'égalité et permet le partage. Tout est donc culturel. L'avenir de l'humanité n'est pas écrit d'avance. Il n'existe ni sens de l'histoire, ni sens de la géographie. Le choc des civilisations est une vue pernicieuse de l'esprit. La seule menace est celle des ignorances, ignorances satisfaites contre les civilisations. L'histoire n'est pas finie, la géographie encore moins. Elles sont en marche et c'est l'humanité qui les pilote avec plus ou moins de sagesse. Les forces spirituelles et l'approfondissement des cultures peuvent vaincre toutes les menaces. Nul doute que si la Chine se pénètre de nouveau de la philosophie de Confucius tout en la renouvelant, elle soit appelée à rendre d'immenses services à l'humanité. Il n'est de richesse que d'hommes éduqués, curieux, libres de déployer leur imagination créatrice, vivant en paix grâce à des gouvernants éclairés, pleins d'énergie, d'espérance et de générosité. Que progresse l'amour du savoir, la liberté de penser et de s'exprimer, l'esprit critique, l'état de droit et l'empathie, l'optimisme, ou mieux encore, l'espérance, véritable valeur spirituelle et universelle, et du coup le réchauffement climatique apparaîtra comme un simple épiphénomène dans la longue histoire des relations de l'humanité avec son environnement. Que l'humanité s'abandonne à ses plus fâcheux penchants, au désespoir en particulier, et le moindre aléa environnemental entraînera des effets catastrophiques pour elle. Comme le prônait Spinoza, le désir qui naît de la joie est plus fort, toutes choses égales d'ailleurs, que le désir qui naît de la tristesse. Notre protecteur nous l'a rappelé et recommandé lorsque certains d'entre nous l'ont rencontré il y a peu en compagnie de notre nouveau confrère Wolfgang Schauble. Délaissons nos passions tristes et abandonnons-nous aux passions joyeuses. Il y va de l'avenir de l'humanité sur Terre et c'est la mission de notre Académie que d'y contribuer. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le Perpétuel. Avant de lever la séance, je tiens à vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui. Je remettrai maintenant leur distinction aux lauréats dans le salon Édouard Bonnefous, qui est situé de l'autre côté de la cour d'honneur. La taille de ce salon ne me permet pas d'y accueillir d'autres personnes que les intéressés. D'avance, je vous remercie de bien vouloir le comprendre. Toutefois, j'invite tous les autres participants à cette cérémonie à se retrouver en attendant dans les salons qui leur seront indiqués pour partager un rafraîchissement. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever à nouveau et de quitter la coupole sous vos applaudissements.